Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Notre invité, Nick Hornby, cultissime écrivain anglais et vivant de surcroît, ne le sait pas, mais j'ai passé mon enfance avec lui. Enfin, pas lui en tant que personne physique. Nick est mon cadet de 3 ans et demi, et comme l'enfance, en règle générale, à moins d'être ukrainien ou d'avoir un père alcoolique, est une période sans soucis, disons que Nick était le cadet de mes soucis. Et pourtant, nous ne nous quittions pas, sans que Nick le sût, pour la bonne et simple raison que mon occupation favorite à l'époque consistait à jouer aux petits trains électriques avec les trains et équipements de la marque légendaire Hornby. Vous me direz que je raconte n'importe quoi, comme souvent, Nick Hornby, l'écrivain, n'ayant aucun rapport avec la ferrovipathie, l'amour du train, et vous aurez raison, mais il n'empêche. D'accord, même si ce ne fut pas aussitôt avec ces trains homonymes, et même si je ne m'empêcherai pas de rappeler que le père de Nick fut président de la London and Continental Railways, coïncidence, je ne crois pas, j'ai quand même passé une partie de ma vie à lire les livres de Nick. Et bien évidemment, sa passion pour la musique pop, son empathie naturelle, son humour dévastateur et son immense talent de conteur n'y sont pas pour rien. Il est aujourd'hui dans Pop 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 pour nous parler de Tout comme toi, son petit dernier, et Pop 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 est en fait Pop Pop Pop, c'est parti.
France Inter, Pop Pop Pop, Antoine de Caunes.
Bonjour Nick Hornby.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue.
Merci.
De rien. Et bonjour à vous, Xavier Combe, qui serait notre interprète aujourd'hui.
Nous avons presque arrivé à les limites.
Ah, à la limite.
À la limite de ma français.
Nous avons atteint les limites de votre français.
Bonjour.
Bonjour, bonjour Nick Hornby.
Bonjour Antoine.
Bon, on peut passer comme ça un certain temps, hein, ça ne vous occupe pas. Bon Nick, nous sommes particulièrement ravis de vous recevoir dans Pop Pop Pop, parce que vous êtes à vous seul une incarnation de la pop culture, qu'elle passe par la littérature, la télévision, le sport ou le cinéma. Mais qu'est-ce que cette pop culture représente à vos yeux ?
Well, it's been, I guess, almost a defining principle of my life.
En réalité, la pop culture, ça définit ma vie.
When I was very young, I wanted nothing to do with orthodox culture.
Je ne voulais rien avoir avec la culture dite orthodoxe.
Comics, Marvel Comics, television,
comics, Marvel, les sitcoms américains, ça c'était beaucoup plus intéressant pour moi que tout ce que on voulait m'inculquer à l'école. Et du reste, ma vie s'est poursuivie comme ça.
Dans quelle humeur êtes-vous aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, Nick ? Est-ce que vous pouvez me donner des nouvelles de notre bonne vieille Angleterre post-Brexit ?
I think that England has not been a very happy place for quite a long time.
Ça fait déjà un bon moment que l'Angleterre n'est pas un endroit où il fait bon vivre.
We stopped arguing about Brexit
les discussions sur le Brexit ont cessé en raison de la pandémie, mais maintenant on va se remettre à se foutre sur la gueule à cause de ça.
Et qu'est-ce que ce Brexit a changé pour vous dans votre vie ?
I don't think Brexit has changed an awful lot
Brexit
for the people
n'a pas changé
that voted
grand
to remain,
chose
in fact, because they tended to be
des gens qui
the metropolitan elite,
restaient dans l'Union européenne, l'espèce d'élite métropolitaine, si vous voulez.
Anti-EC people tell us we are the metropolitan elite.
C'est ce qui nous désigne les gens pro-Brexit. Donc la vie continue. On lit des livres, on va au restaurant, tout va bien. Bon.
There are lots
mais,
of shops
cela dit, il y a beaucoup de boutiques qui vendent moins d'articles qu'auparavant. C'est vrai, hein. Parfois, on ne peut pas acheter, disons, des olives. On ne peut plus acheter, je ne sais pas, des légumes, des choses. C'est devient difficile.
Attendez, l'Angleterre ne produit pas d'olives ?
Olives, non. We don't home-produced olives.
Ah ben vous rigolez, bien sûr que non.
What kind of weather do you think we have?
Peut-être que le climat y est pour quelque chose.
Je vous ai découvert, Nick Hornby, comme tout le monde, avec Haute Fidélité, au milieu des années 90, roman culte s'il en est. Vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui, il faut expliquer aux milléniaux, nés avec la génération numérique, ce que c'est que la Haute Fidélité.
Well, I think it means a novel, no?
Ils pensent au roman, le film. Voilà ce qui vient à l'esprit de ces gens-là. C'est chouette pour moi.
I have deleted the original
voilà,
meaning.
La vraie signification d'Haute Fidélité a disparu grâce à moi.
Je sais que vous êtes plus mélancolique que nostalgique, mais quand même, c'est pas un petit coup de bambou, ça.
Well, it's interesting that Vinyl every year is selling more than.
Et puis on vend de plus en plus de vinyles. Année après année, on bat les records. L'année dernière, meilleure année depuis 90. Donc les jeunes aiment bien le vinyle. Ils aiment bien ce genre de choses. Donc, à moins que l'on parle du concept de fidélité envers son partenaire sexuel, c'est de ça qu'on parle ou pas?
Non, je ne parlais que de vinyle, bien sûr. Bon, on va se retrouver dans quelques instants en compagnie de la présidente de votre fan club français, Charline Roux, pour parler de vous et de votre nouveau roman, Tout comme toi. Mais juste avant, démarrons avec une chanson qui vous rappellera, j'imagine, quelques souvenirs, c'est le High Fidelity d'Elvis Costello. Elvis Costello and the Attractions, High Fidelity. Elvis Costello, d'ailleurs, vous continuez à suivre ses palpitantes aventures, Nick Hornby, parce que lui nous confiait, il y a quelques semaines, faire partie de vos fidèles lecteurs.
Yes, I usually listen unless he's making one of
oui,
his opera records.
Oui, moi j'écoute de Elvis Costello, mais il y a aussi de l'opéra rock avec Anne-Sophie Mutter. Ça, je suis moins fan. Mais Elvis Costello avec T-Bone Burnett, tout ça, j'adore.
On aime Elvis Costello, mais voici que vient de nous rejoindre la présidente de votre fan club, chaussée de ses inséparables Doc Martens, celle que j'annonçais il y a quelques instants, Nick Hornby, Charline Roux.
She looks like she's going to resign.
Bon, elle va démissionner après
ah
ça.
Ah non, jamais de la vie je ne démissionnerai. Nick Hornby, je dois vous confesser avoir hérité de l'un de vos romans, une manie dont je peine à me débarrasser encore aujourd'hui, celle de lister, de classer sous forme de top tout produit dit culturel, passant devant mes yeux ou dans mes oreilles, une manie héritée de votre roman High Fidelity, alors non pas le roman d'une génération mais de plusieurs, puisqu'il balayait plusieurs décennies de musique, le héros étant disquaire, est-ce que c'est un tic ou un toc dont vous souffrez également?
I do find lists useful.
Ben, les listes, c'est utile. Hein.
It's more about future projects, films that I haven't seen, films that I want to see.
Il s'agit de films que je dois voir, de romans que je dois lire. Je fais des listes de choses à venir. Le fait d'avoir écrit Haute Fidélité, ça m'a libéré de cette obligation de décider entre 5 ou 10. Vous voyez, en fait, on peut choisir autant de choses qu'on veut. Je ne savais pas. J'ai découvert ça.
Et par exemple, avez-vous fait une liste de ce que vous deviez faire à Paris pendant votre visite, en dehors de Pop Pop Pop, bien sûr?
It was only you, Antoine.
Non, il n'y a que Pop 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 dans mon séjour parisien.
Aussi numéro 10.
Ah, de 1 à 10. Nous, Charline, bah
voilà.
Charline,
voilà une belle journée.
Bah oui, vous... 23. Charline, 4.
Aïe Fidelity, un roman culte, le terme n'est pas abusif, adapté au cinéma par Stephen Frears en 2000 avec le génial duo John Cusack-Jack Black, et de retour 20 ans plus tard en série avec Zoé Kravitz. Est-ce que vous pensiez que ce roman laisserait une empreinte aussi durable dans la pop culture?
Quand j'ai fini, je me suis dit, sûr, au 21e siècle, il y aura une jeune femme noire qui sera dans une série télé. Ouais, j'avais tout prévu, sans problème. Mais bien sûr que non. En réalité, tout ça, c'était très simple. J'ai rédigé ça de manière très simple. Tout ce que je savais, qu'il n'y avait pas de roman comparable. Ça se passe chez un disquaire, vous l'avez dit. Et je connaissais des amis qui allaient lire le livre parce qu'il était original. Mais est-ce que ça allait se vendre à l'étranger? Je n'en avais aucune idée. Le transfert des générations, c'est ça ce qu'il y a de plus passionnant, je trouve. Parce qu'en tant qu'écrivain, c'est le rêve, c'est le Graal. Il ne s'agit pas simplement d'écrire pour son entourage, mais les enfants et les enfants des enfants. Et Haute Fidélité, c'est ça l'expérience depuis quelques années. Qu'est-ce que c'est génial. Je parlais à Zoé Kravitz de ce que ça représentait pour elle. Zoé Kravitz, elle n'a pas mon âge, ça va sans dire. Et pourtant, elle connaissait le roman et ça représentait quelque chose dans son esprit. J'adore.
Et à ce jour, le High Fidelity version cinéma de Stephen Frears, cela reste la seule apparition cinématographique d'un certain Bruce Springsteen.
You call, you ask them how they are, and see if they've forgiven you. Yeah, and then I feel good. And they feel good. Well, they feel good maybe, but you'd feel better.
Vous avez suivi vos propres conseils, Nick, formulés par Bruce, là, vous réconcilier avec votre passé, ou en tous les cas avec vos ex.
I'm still in touch with most
non, je people. Suis en contact avec la plupart des personnes dont il est question là.
I mean, there are a couple I haven't been able to find.
Bon, il y en a deux ou trois que j'ai pas pu retrouver.
Ah oui, il y avait
des gens qui se cachent peut-être de moi, je ne sais pas.
But mostly I'm at peace with my past.
En grande partie, oui, j'ai fait la paix avec mon passé.
Le livre qui précédait High Fidelity, Carton jaune, était largement autobiographique et s'attachait à la vie d'un supporter d'Arsenal. Alors où est-ce que vous vous situez aujourd'hui footballistiquement et est-ce que vous êtes satisfait d'Alexandre Lacazette?
Alexandre, he is not having the best time.
Bon, Alexandre, ça se passe pas super bien pour lui. Hein.
This season, I think, will be his last.
Cette saison devrait être sa dernière.
He seems like such a nice guy.
Pourtant, il a l'air d'un type très sympa. Mais moi, je suis supporter d'un club qui avait les plus grands joueurs français toutes les semaines.
Patrick Vieira, Thierry Henry
et Robert Pires qui jouaient dans la même équipe. Et ma vie ne sera plus jamais la même.
Ce roman aussi avait été adapté d'abord en Angleterre en 97, puis de manière plus étonnante aux États-Unis par les frères Farrelly sous le titre Terrain d'entente avec Jimmy Fallon en supporter acharné. Mais d'une équipe de baseball, ce qui me semblait être un roman très anglais est devenu une drôle d'histoire américaine. Comment est-ce que vous avez vécu la traversée de l'Atlantique de votre roman ?
L'adaptation américaine pose quelques problèmes. Donc, la vedette, c'est la femme et pas l'homme. Et en réalité, il faut que ça soit l'histoire d'un homme. Et il a été un petit peu relégué, l'homme. Donc, cette obsession pour le sport a passé, a changé de priorité.
Mais par ailleurs,
il s'est passé une chose assez positive. Ils voulaient faire le contraire d'un film hollywoodien. Ils voulaient une équipe qui ne gagne jamais. Et ils ont choisi l'équipe de baseball de Boston, les Boston Red Sox, qui n'ont jamais gagné le championnat depuis 1912. Et puis, ils ont commencé à tourner le film, et là, les Red Sox ont commencé à gagner dans la vraie vie. Ils ont continué à tourner le film, et les Red Sox ont gagné de plus en plus. Et puis, à ce moment-là, ils ont commencé à paniquer, les gens du film, parce que c'est l'année où les Boston Red Sox ont gagné le championnat des États-Unis pendant qu'ils tournaient le film. Donc, il a fallu complètement changer la fin du scénario. C'était pas une intention. Il voulait faire un film anti-hollywoodien sur les losers et c'est devenu un film sur le triomphe d'une équipe. Et ils ont fini par tourner sur le terrain de baseball le soir où Boston a gagné le championnat. Quelle ironie. Mais bon, bref, voilà l'histoire.
Mais est-ce que l'adaptation américaine vous a permis de mieux comprendre les mystérieuses règles du baseball ? Toujours plus facile à comprendre, me direz-vous, que celles du cricket.
Moi, j'aime bien le cricket, hein, attention. Hein. Je regarde ça à la télé. Hein. Et le baseball, c'est néandertalien à côté du cricket. C'est complètement préhistorique.
Continuons d'explorer votre bibliographie et on se rend compte que le cinéma s'en empare toujours volontiers, comme ce fut le cas aussi pour ce que nous allons écouter, sans garantie que ça ne me fasse pas encore une fois pleurer.
This is for my mom. He sang a good song. I heard he had a star.
Non, je ne pleure pas, vous pleurez.
Vous êtes en larmes.
Extrait de l'adaptation de votre roman About a Boy, l'histoire d'un redoutable et oisif célibataire londonien qui se lie malgré lui avec un jeune garçon qui a du mal à se faire accepter. On note que vos personnages ont souvent du mal avec le passage à l'âge adulte et ou avec leur rapport au monde, aux autres et leur place dans la société.
Dans les trois premiers romans, il s'agissait de personnages masculins qui avaient du mal à grandir. C'est autobiographique en partie, notamment le premier roman. À mesure que j'ai gagné en âge, c'est devenu moins un problème. Mais en vérité, si on veut écrire de la comédie, et dans mes livres, il y a toujours un élément de comédie, on ne veut pas parler d'une personne couronnée de réussite qui n'a pas de problème. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Il faut expliquer comment tout fout le camp et il y a des problèmes. Et c'est souvent parce qu'il y a une mauvaise décision qui a été prise à un moment donné. Et on a tous cette expérience. Et le succès, c'est pas drôle.
Nous sommes en train de discuter avec Nick Hornby. Et ma chère Charline, je vous laisse encore une question avant que nous passions à Tout comme toi, son tout nouveau roman qui vient de paraître chez Stock.
Alors, vous le disiez, Nick Hornby, beaucoup de vos héros des débuts étaient des messieurs. Pas une raison pour oublier la géniale héroïne de votre roman Funny Girl. Une jeune femme des Swinging 60s qui se rêve en reine de comédie, une épopée féminine et féministe dans un monde assez peu ouvert, faut bien le dire. Votre volonté, c'était de raconter la place des femmes dans la comédie. Finalement, on peut dire que c'est un livre toujours un peu d'actualité, non ?
Il y a plusieurs choses à savoir. J'ai écrit le scénario de Une éducation, An Education, avec Carey Mulligan.
I was really struck by how much more interesting it was in a way for me then to write about women.
Par le sujet des femmes, beaucoup plus intéressant pour moi d'écrire sur ce sujet. Parce que la plupart des hommes aisés, disons, ont des problèmes qui ne sont qu'internes. Et ils n'obtiennent pas tout parce qu'ils se plantent, ils font des erreurs. Mais les femmes, elles ont des obstacles réels à franchir. Et ça, c'est plus facile à écrire quand on écrit un scénario, un livre. Il y a de véritables obstacles qui empêchent les gens d'atteindre leurs objectifs et de mener la vie qu'ils veulent. Ce sujet-là m'a travaillé. J'ai écrit d'autres scénarios où ce sont des femmes qui sont au centre du sujet. Donc, j'ai pris l'habitude de réfléchir de la sorte. Et les femmes dans la comédie, c'est difficile. Je crois que les femmes humoristes ont vraiment du mérite. On leur dit qu'elles ne sont pas aussi drôles que les hommes. Elles ont du mal. Ce n'est pas facile pour elles, mais il y en a qui sont géniales. Hein. Et moi, ce que j'aime, c'est la collaboration. Moi, j'adore travailler avec les gens. Et dans mon métier, je ne travaille pas avec beaucoup de gens. Donc, j'ai cette espèce de fantasme d'une équipe de gens qui fait du bon travail. Voilà.
Charline, je vois à vos yeux que vous avez encore 1000 questions à poser à Nick Hornby. Ne vous impatientez pas. On va y revenir pour parler de Tout comme toi, le nouveau roman de Nick Hornby. Mais juste avant, je vous propose d'écouter un petit peu de musique, mais pourquoi pas du Nick Hornby, c'est-à-dire un morceau de l'album Lonely Avenue que vous aviez coécrit avec Ben Folds.
They even looked at each other once across a crowded bar. Martha, she was with Tom. Neither of them really knew what was going on. A strange feeling of never. Heartbeats becoming synchronized, staying that way forever. But most of the time, it was just near misses. Atkinson's, once in a bookstore, once in a party. She came in as he was leaving. And years ago at the movies, she sat behind him. The 6:30 showing of While You Were Sleeping. He never once looked around. It's so easy from above. You can't really see it all. People who belong together, lost and sad and small. But there's nothing to be done for them. It doesn't work that way. Sure, we all have soulmates, but we walk past them every day. In the lives they lived, he married Martha, she married Tom. Just this vague notion that something was wrong. An ache and absence, a phantom limb, an itch that could never be scratched. It's so easy from above, you can't really see it all. People who belong together, lost and sad and small. Maybe that's how books get written. Maybe that's why songs get sung. Maybe we are the unlucky ones. It's so easy from above. You can't really see it all. People who belong together, lost and sad and small. But there's nothing to be done for them. It doesn't work that way. Sure, we all have soulmates, but we walk past them every day.
Songs get sung. Maybe we are the unlucky ones.
Maybe that's how books get written. Maybe that's why songs get sung. Maybe we are the unlucky ones.
Ben Folds et Nick Hornby, notre invité aujourd'hui, et le morceau s'intitulait From Above. C'est un morceau tiré de l'album Lonely Avenue. Nick, votre nouveau roman, Tout comme toi, sort donc aujourd'hui chez Stock, et Charline, qui, vous l'aurez compris, vous, un véritable culte, là, je crois, je ne veux pas m'avancer, apprécié.
Je le confirme. On pourrait dire que la vie de Lucie a toujours été sur des rails, un mari, deux enfants, un emploi, mais parfois une erreur d'aiguillage, hein, comme un mari toxico et toxico, et on change de direction. Lucie a la petite et fort jolie quarantaine, elle est enseignante, divorcée, elle a la charge de ses deux garçons et peu de place, pense-t-elle, pour l'amour. Mais Lucie rencontre Joseph, de 20 ans son cadet, un jeune homme qui jongle entre différents petits boulots, dont celui de boucher. C'est d'ailleurs en ce lieu, la boucherie, que les deux se rencontrent et lient. Ce qu'elle pense être une relation professionnelle, elle cherchait un babysitter, mais cette relation devient tout autre chose. Parmi les gros obstacles qui peuvent se glisser entre deux êtres amenés à s'aimer, il y a l'âge, les origines et l'éducation. Entre vos deux protagonistes, Nick Hornby, c'est un fossé que vous avez choisi de creuser.
Yeah, I, uh, I, I'd thought about these two characters for quite a long
time. Oui, ça faisait longtemps que je réfléchissais à ces deux protagonistes.
It began because I observed.
Tout a commencé parce que
it was a guy and a girl.
Il y avait un gars et une fille.
The guy was older
dans une boutique.
The girl was black.
La fille était noire. Il était plus vieux qu'elle.
Really cute.
Ils commençaient à flirter. C'était super mignon de les voir. J'étais là, j'étais spectateur, et je suis entré chez moi en me disant, quel dommage, ils feront jamais un couple, ces deux-là. Puis, j'ai fait une espèce d'introspection, et je me suis dit, il y a le problème d'âge, il y a le problème d'éducation, il y a le problème de classe sociale, il y a le problème de la couleur de la peau.
Et pendant
les quelques mois ou années qui ont suivi, cette image m'est toujours revenue. Et ces obstacles, je me suis dit, on peut quand même les surmonter, pour la plupart. Mais je ne savais pas trop comment traiter l'histoire de ce couple et puis le référendum.
Ça veut dire que pour vous, Nick Hornby, les véritables affinités entre deux êtres ne sont ni sociales, ni raciales, ni culturelles ?
I think it's very hard to overcome them, but
très difficile de surmonter tous ces obstacles.
One of the things that I wrote about it in the book as well, but one of the things I've often thought about is that if you are a writer and a reader,
you presume que quand on est écrivain ou lecteur, on pense qu'on va être avec quelqu'un qui est lecteur, non? C'est très important pour moi ça. C'est très important donc pour moi de partager ma vie avec quelqu'un qui lit des livres. Puis 10 ans plus tard, on se retrouve avec 2-3 enfants et vous avez un enfant qui est difficile. Cet enfant vous épuise et vous dites, mais j'en ai rien à foutre de savoir si cette personne lit des livres ou pas. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir la même philosophie face à nos problèmes. Il faut qu'on ait la sens de l'humour, de la tolérance, de la gentillesse, de la bienveillance. Et ça, ce sont des qualités que l'on retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les classes sociales. Et il y a les problèmes auxquels on pense être confronté sont des problèmes qu'on surmonte en fait.
Vous avez choisi de situer ce roman en 2016, juste au moment du référendum sur le Brexit. Le référendum donné à des groupes de personnes qui ne s'aimaient pas ou du moins qui ne se comprenaient pas à l'occasion de se battre. C'est ce que vous faites dire à Lucie. Qu'est-ce que cette période de tension, pour ne pas dire cette période douloureuse, vous permettait d'ajouter au récit amoureux ?
Comme je vous l'ai dit, j'avais ces personnages à l'esprit. Je n'avais pas trop très bien comment les traiter. Puis, à l'issue du référendum, la moitié du pays qui se tournait contre l'autre moitié, catastrophe sociale, et je me suis dit, on va parler de clivage, on va parler de division, et on doit se reparler. Il faut que je parle de ça. Donc, on ne va pas pouvoir parler face à face. Hein. Il faut se parler de manière indirecte.
Et
ce qui a commencé à m'intéresser, c'est mon irritation face aux gens qui ont voté pour rester dans l'Union européenne. Ces gens-là commençaient à parler de la bêtise, du manque d'éducation, de ceux qui ont voté pour le Brexit. Et ça m'a attristé. J'ai dit, mais il ne faut pas parler des gens comme ça. Ils ont voté en faveur du Brexit pour plein de raisons. Ce n'est pas que la bêtise et l'ignorance. J'ai fait, je me suis documenté pour le livre et j'ai trouvé un article écrit en 1975, lorsqu'il y a eu les premières idées de ce référendum. L'auteur était tout à fait à gauche, quelqu'un que j'admire, et quelqu'un qui a dit il faut quitter l'Union européenne. Cette personne parlait de souveraineté, de devise souveraine, de loi du point de vue de la gauche. Une opinion très importante pour moi. Je me suis dit, ah bon ? Moi, je n'ai jamais vu cette perspective-là. Je ne savais pas qu'il y avait des gauchistes en faveur du Brexit. Ça m'a beaucoup éclairé. Et il m'est apparu que mes amis étaient devenus antidémocratiques par rapport aux gens qui avaient voté pour le Brexit.
Alors, ça aurait été beaucoup moins sexy, mais le livre aurait aussi pu s'appeler « Valeurs et perspectives », non ?
I'm going to set it for the next one, but I like it. Would look good in the book.
Valeurs et perspectives, ouais, dans une librairie, ça aurait de la gueule en tout cas.
Maybe with a brown cover and
peut-être
just
une couverture marron, vous voyez, et puis bien écrit, un truc, un essai en quelque sorte.
Ça fait partie.
I will give you half of all the royalties.
Bon, la moitié des droits d'auteur pour vous, Charline.
Ça fait partie des vraies problématiques de vos deux personnages.
No, that was my starting point.
En fait, oui, sérieusement, c'était le point de départ. Vous avez raison de le dire.
Nous consacrons aujourd'hui tout ce pop-pop à Nick Hornby, un écrivain que l'on adore dans cette émission et qui publie son nouveau roman « Tout comme toi » aux éditions Stock. Mais pour l'instant, il faut que nous fassions un petit break, nous aussi, et pas un break exit. C'est le moment des pop news.
Dans Blazing Samurai, Michael Cera prête sa voix à un petit chien qui devient responsable de la protection de la ville de Kakamucho, ville peuplée par des chats et dans laquelle sévit un grand méchant dont la voix est assurée par Ricky Gervais. Alors le petit chien va devoir se former et dans ce cas, quoi de mieux qu'un gros matou à qui Samuel L. Jackson a prêté ses cordes vocales.
Why do you want to be a samurai?
I lived in a bad part of town full of bad dogs. Everybody always picked on me. I thought if I could be a samurai, it would change everything.
Sounds like you need a mentor.
Perhaps a once great samurai who has fallen on hard times and maybe could use some help himself. But where could I find one?
What? Oh, get out of here! Who even made that?
It's you!
Don't believe everything you read.
Blazing Samurai de Rob Minkoff et Mark Kotsur sur une idée originale de Mel Brooks. Ce sera en octobre dans les salles françaises.
Un anniversaire se prépare, celui des 40 ans du mythique album de Clash, Combat Rock. Et ce sera l'occasion d'une ressortie enrichie, intitulée Combat Rock The People's Hall. La nouvelle édition combinera l'album original et 12 titres enregistrés au People's Hall de Londres en 1981, après la résidence de 17 concerts du groupe au Bond Casino de New York, ainsi que quelques versions inédites, notamment de Know Your Rights. L'édition anniversaire de Combat Rock sortira le 20 mai.
Anna Calvi dans la tête de Tommy Shelby, la songwriter de Twickenham signe la BO de l'ultime saison de Peaky Blinders et s'apprête à sortir un EP quasi à la gloire du perso, incarné par Cillian Murphy, un EP dont est extrait ce premier titre, Ain't No Grave. Un titre à retrouver sur le Tommy Hippie d'Anna Calvi, sur lequel on pourra aussi entendre le Red Right Hand de Nick Cave, version Calvi, qui sert de générique à la série, et l'EP sortira ce vendredi.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Eh oui, merci Charline.
Avec grand plaisir.
Ben, c'était moi. Nous sommes toujours avec Nick Hornby pour parler de son roman Tout comme toi, sorti hier chez Stock. Nick, vous écrivez du point de vue d'un jeune noir et d'une femme de 40 ans. Double peine, j'imagine, pour ceux qui sont convaincus qu'il faut être noir pour parler des noirs ou femme pour parler des femmes. Et là, pour vous avoir sous les yeux, je peux garantir que vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'on vous a fait des reproches à ce sujet?
Well, it's interesting.
C'est une question intéressante. Pour autant que je sache, je n'ai pas fait l'objet de cancel, d'annulation. Je peux encore m'exprimer. Et mes éditeurs américains ont été un petit peu mal à l'aise au début. Néanmoins, ça a été publié aux États-Unis et je n'ai rien changé. Je n'ai pas changé une virgule et il ne s'est rien produit aux États-Unis lorsque le livre est sorti. Bien. Cela dit, on y paraît, donc vous dites que moi je suis écrivain, je regarde par la fenêtre chez moi, point final, et je décris les gens que je vois. Et si vous dites, oui mais vous êtes homme blanc, donc vous ne pouvez écrire qu'à propos des hommes blancs de 60 ans chauves comme moi, mais qu'est-ce que je peux écrire moi? Non, moi il faut que je puisse écrire à propos de personnages qui ne sont pas moi. Et ça s'appelle la fiction, ça.
I wasn't writing in the first person.
Vous voyez, d'ailleurs, c'est pas un roman à la première personne. J'ai écrit à la troisième personne. Et j'ai essayé d'imaginer ce qu'est l'existence de ces personnages. Et quand j'ai terminé le manuscrit, je l'ai donné à lire à des gens qui se reconnaîtraient dans les personnages.
On parle de vos dons d'observation et vous dites, notamment pour les multiples rendez-vous amoureux de Lucie, enfin en tout cas ceux qu'elle devra subir, que le téléphone portable a été pour vous une véritable bénédiction. Alors pas votre téléphone portable à vous, mais celui des autres, celui des gens que vous avez croisés et entendus dans les transports ou dans la rue.
Well, you know what? I think it's not so much cell phones, but
Comment on peut s'en prendre à un mail.
Alors, Nick Hornby, je veux pas trop en dévoiler hein, sur ce livre, tout comme toi, mais Lucie, votre héroïne, par exemple, fait l'expérience de rencontres plus ou moins arrangées avec des hommes de son âge, eux aussi célibataires. Et franchement, ça fait pas envie. Hein. Les hommes de 40, 45, 50 ans ont l'air terriblement chiants, Nick. Ça veut dire que vous et moi, nous pouvons nous permettre de les regarder de haut.
I think that there is a certain kind of person who embarks on the hunt for a partner already being defeated.
En chasse, you know,
they,
mais
they feel defeated before they have
battu.
Begun.
Les gens qui se disent, je n'y arriverai jamais. Et c'est le cas deux types que rencontre Lucy. Soit ils manquent trop, ils manquent de confiance, soit ils ont trop confiance en eux.
One of the great joys about Joseph,
c'est que lui, il n'a pas encore décidé s'il était à rater ou si la vie allait lui sourire. Donc ce gars-là, il n'est pas du tout conscient du bagage. En fait, il n'a pas de bagage, il n'a pas de préjugés et tout. Si on a trop de préjugés, bah, c'est lourd à porter.
Mais est-ce que vous comprenez cependant la guerre que se livrent parfois boomers et millennials ?
Do I understand this struggle? A little bit.
Un petit peu, oui.
We took everything. And, nous, is that what you mean?
Mm-hmm. Yeah, nous, les boomers, on a tout pris, oui. On a tout pris.
I do understand it because whenever my children,
comme mes enfants,
I have teenage, 19, 17-year-old boys.
Des enfants, deux garçons de 19 et 17 ans,
argument,
quand on a cette discussion, eh bien, moi, j'admets volontiers que ma vie a été géniale. Elle a été bien meilleure qu'elle sera la vôtre, parce que mon éducation était gratuite. On m'a même payé pour aller à l'université. Vous, ça va vous coûter une blinde, 30 ou 40 000 livres sterling par an. C'est triste. Donc, la colère, je l'entends, et moi, je leur explique que ma vie a été meilleure que la leur ne le sera.
Je me permets une petite digression, Nick Hornby, en tant que je vous tiens sous la main. Il vous est arrivé de comparer la forme du roman avec une sorte de conversation nationale, comme vous avez dit, et vous dites qu'aujourd'hui, un jeune Dickens ne se lancerait pas là-dedans et qu'il écrirait plutôt pour HBO ou Netflix. Est-ce que vous pensez que, d'une certaine manière, c'est la fin de la civilisation du livre ?
I really hope. Not.
J'espère pas, en tout cas.
Books are going to survive,
j'espère que les livres vont perdurer. Les écrivains doivent, à mon avis, comprendre qu'à l'heure actuelle, l'appétit pour la chose écrite s'est évaporé. Il faut que les écrivains reviennent au centre de la conversation culturelle. Autrement dit, il faut que les écrivains regardent ce que les gens consomment, ceux qui lisent, ceux qui regardent à la télé. Et il faut qu'ils intègrent ça dans leur travail. Mais à l'heure actuelle, les écrivains sont dans un coin et ils écrivent à propos de sujets qui n'intéressent personne, et les écrivains sont en train de se marginaliser. J'ai changé d'avis à propos de Dickens pour HBO, parce que, étant donné que moi-même, j'ai beaucoup travaillé pour des chaînes de télé, pour des scénarios, on n'aurait pas pu dire à Dickens de reprendre son manuscrit une dizaine de fois, parce que Dickens, il écrivait, et on ne lui demandait pas de réviser.
J'ai
un petit livre qui va sortir à la fin de l'année qui porte
Charles Dickens and
sur
Prince,
Charles Dickens et Prince. Et aucun d'eux n'était perfectionniste. Ils voulaient simplement être à l'avant-garde. Admirable.
Nick Hornby, il y a 20 ans, vous avez publié La bonté mode d'emploi. Est-ce que vous changeriez aujourd'hui certaines des pistes à explorer ?
À vrai dire, il y aurait peut-être des différences au niveau des détails, mais avec la crise en Ukraine, l'époque a changé. Et puis, il y a pas mal d'éléments de ce livre qui sont malheureusement d'actualité. À nouveau, on est en train de réfléchir à ce que l'on doit à une personne que l'on ne connaît pas. C'est un petit peu ça, le sujet que je traite dans pas mal de livres, ce que l'on doit aux personnes que l'on ne connaît pas. Et comment faire montre de bienveillance. Et dans les 3 ou 4 années à venir, cette question-là sera très prégnante pour nous tous.
Nick Hornby, je rappelle que votre nouveau roman « Tout comme toi » est sorti chez Stock hier. C'est tout frais et que c'est comme toujours avec vous une merveille d'intelligence, de liberté d'esprit et que ce livre nous a une fois de plus littéralement emballé. Vous restez avec nous, cher Nick, car dans quelques instants nous allons examiner vos choix en matière de pop culture, mais pour l'instant je vous propose d'écouter un morceau de Sébastien Tellier, Porté par le vent. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ça, c'est quelqu'un qui tapote son micro, et c'est le son qui vous évoque la pop culture, Nick Hornby. Expliquez-moi pourquoi.
Yeah, it has to be a bit louder.
Non, plus fort, un petit peu
plus fort. On peut le faire
plus fort. Just that moment.
On attend que le groupe arrive sur scène, le micro est allumé, puis il y a quelqu'un qui tapote sur le micro et qui fait 1, 2, 1, 2. Et là, je me dis, ah, ça y est, je suis chez moi.
Ok, eh bien, voici votre pop liste. Nick Hornby, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série que vous appréciez en ce moment. Et le livre que vous lisez et adorez, nous dites-vous, c'est Limonov d'Emmanuel Carrère. Charline, qu'en est-il de ce sulfureux et bien réel Édouard Limonov ?
Voyou en Ukraine, idole de l'underground soviétique sous Brejnev, clochard, valet de chambre d'un milliardaire à Manhattan, écrivain branché à Paris, soldat perdu dans les guerres des Balkans, vieux chef charismatique d'un parti de jeunes desperados, une infime partie de son CV.
Alors, Nick Hornby, est-ce que c'est le personnage de Limonov lui-même qui vous fascine ou bien la fascination de Carrère qui est contagieuse?
I'm reading Limonov because I read
Je lis Limonov parce
book,
que j'ai lu L'Adversaire. L'Adversaire de Carrère, L'Adversaire.
And I thought it was fantastic.
Livre fantastique.
I bought Limonov
et Limonov, je l'ai acheté peu de temps après, je l'ai laissé de côté, et ce n'est que récemment que je l'ai vu sur mon étagère, et je me suis dit...
On point.
C'est terriblement d'actualité. Limonov qui a grandi en Ukraine parce que ça faisait partie de l'Union soviétique. C'est une histoire extraordinaire et Carrère la raconte de manière admirable. Donc il mélange le personnel et l'historique. C'est un livre extraordinaire. Limonov d'Emmanuel Carrère.
Bien, votre conseil cinéma du moment, Nick Hornby, c'est Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Charline, la recette de cette pizza à la réglisse, mais sans réglisse.
Les années 70, Los Angeles, un ado acteur, une assistante photo et un voyage à New York un peu perturbé.
I think it's weird to hang out with Gary and his friends all the time. I think it's weird that I hang out with Gary and his 15-year-old friends all the time.
I'm not gonna forget you. It's like you're not gonna forget me.
Gross.
Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, le choix de Nick Hornby, notre invité aujourd'hui. Alors, je vois très bien ce qui peut vous plaire chez Paul Thomas Anderson, mais vous allez me le dire vous-même.
Well, I just love the vibe of Licorice.
C'est la vibe, l'ambiance, l'énergie.
When movies tend to be quite bleak.
Les films sont un peu sombres.
À l'heure actuelle,
un peu morose. Voilà un film plein de lumière qui ne se prend pas au sérieux. Quelle ambiance géniale. Et j'aime beaucoup le groupe, un groupe génial, Dream. Et voir cette performance géniale par la fille et sa famille. Et quel film génial. Mais je crois que il y a trois ou quatre films géniaux qui sont sortis cette année. Trois ou quatre films géniaux dans ma bouche, c'est plus que d'habitude.
Flea, which is the animation about
oui, un film d'animation.
The worst person in the world.
La pire personne au monde.
Julien 12 chapitres en français.
Oh, Julien 12 chapitres, oui. Yeah, yeah. Ouais. Ok, très bien. Votre série du moment, c'est Hacks sur HBO avec Jean Smart et Anna Einbinder. Charlie, what is this exactly?
Une légendaire comédienne de Vegas embauche une jeune autrice pour lui fournir du matériel propre à séduire un public plus jeune.
I got a call this morning saying that you wanted to meet.
Well, Jimmy sent you against my wishes.
Good luck with your career, honey.
Fucking bitch.
Excuse me, did you have something else to say?
Yeah. So cool they let you move into a cheesecake factory.
Is that where you wait tables? That seems like a better fit.
I'd rather sling bang bang chicken and shrimp all day than work here, you classist monster.
We can start early tomorrow.
Relation pas évidente, hein, semble-t-il, entre une autrice et une humoriste. C'est ça qui vous inspire, Nick?
What I think that the show is very good at is...
La série est... tout à fait efficace dans sa confrontation entre le woke et le no-woke. La femme plus âgée, elle est très old school, un petit peu comme Joan Rivers, vous voyez, très vieille école. Alors que l'autre femme est beaucoup plus jeune, elle a une forte conscience politique. Le premier problème, qui est assez drôle et hérétique, c'est que la plus âgée dit, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? C'est pas drôle ce que tu dis. Et la plus jeune, elle pense très très vite, elle réfléchit. Il y a des blagues qu'elle a sorties dans ses blagues féministes, mais c'est pas toujours drôle pour tout le monde.
Très bien, mais il me manque juste un petit peu de musique pour terminer cette pop list. Et votre choix en matière de musique, c'est le morceau Certainty du groupe d'indie rock américain Big Thief. Pourquoi ce choix? Vous les connaissez personnellement?
No, I do not know these people personally.
Non, je les connais pas personnellement.
This has been my favorite indie rock group of the last 3 or 4 years.
C'est mon groupe
they
de
work
rock
so hard. I'm talking
depuis 3-4 ans.
Dickens. They are
on peut revenir à Dickens. Voilà des gens qui font un album,
year,
deux albums par an.
Solo record,
plus, il y en a un qui va faire un album solo.
I think that they have a real avis, songwriting talent.
Ces gens-là, ce sont de vrais songwriters. Ils ont vraiment composé des chansons. Une attitude qui est une grosse source d'inspiration pour moi. Plein d'énergie. Voilà un groupe de rockers jeunes géniaux. Les gens l'adorent, hein, d'ailleurs. À chaque album, ils font des concerts et il y a des foules maintenant.
Et c'est une chanteuse
et
à la tête.
Et c'est une chanteuse.
Ce qui ne gâche rien.
Et grâce à vous,
chanteuse, oui.
Grâce à vous, Nick Hornby, eh bien, les voici aujourd'hui, Big Fif, sur France Inter et Pop Pop Pop. Et le morceau, c'est Certainty. C'était Big Fif et le morceau Certainty. Tout cela grâce à Nick Hornby, notre invité aujourd'hui. Merci Nick de nous avoir rendu visite. Tout comme toi, c'est sorti hier chez Stock et c'est peu dire que nous le recommandons chaudement. Merci une fois de plus.
Merci Antoine, merci tout.
Merci Charline.
Merci à vous.
Et à demain. Et merci à Xavier Combe qui était notre interprète aujourd'hui. Et merci aussi à toute l'équipe de Pop 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 et à Guillaume Roux, encore une roue, qui était à la technique aujourd'hui.